l'avez compris avec le dernier chant qu'on vient de chanter. Tempêtes qui peuvent survenir dans nos vies. Tempêtes plus ou moins grandes avec des vents plus ou moins violents. Tempêtes qui peuvent survenir dans notre travail, nos familles et même aussi dans l'Église. Alors nous sommes toujours dans Matthieu au chapitre 8, les versets 23 à 27. Et juste pour rappel, les chapitres 8 et 9 parlent essentiellement donc de miracles, de guérison. Et juste avant, la semaine dernière, il est question des disciples de suivre Jésus, les 3-4 versets qui étaient juste avant. Donc nous allons lire les versets 23 à 27 de Matthieu 8 et je vous invite à faire la lecture ensemble. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Et pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Qui est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous as donnée, que tu as permis qu'elle arrive jusqu'à nous. Merci parce que, au travers de ta parole, tu te révèles à nous et tu nous révèles aussi ton plan. Et tu veux aussi nous fortifier et nous encourager au travers d'elle, Seigneur. Que nous puissions la faire nôtre et que tu puisses encore nous faire grandir au travers de ta parole, Seigneur. Amen. Je vais remettre le texte qu'on vient de lire avec des compléments des autres évangiles de Marc et de Luc. Ces compléments ne changent pas grand-chose au sens général du texte, mais apportent des informations intéressantes sur la situation et la réaction des uns et des autres. Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Le bateau se remplissait. Ils étaient en danger. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous !» « Nous périssons, et tu ne t'en soucies pas !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Où est votre foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement et d'une grande crainte. « Quel est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Nous sommes au début du ministère de Jésus. Les 12 apôtres n'ont pas encore été choisis. C'est juste quelques disciples qui commencent à suivre Jésus. Juste avant, comme je vous l'ai dit, Jésus vient de leur dire, ben voilà, si vous voulez être mon disciple, voilà ce qu'il faut faire. Hein. Les renards n'ont pas de tanière, tout ça, vous rappelez la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Me suivre, ce n'est pas forcément facile. Et Jésus a un projet bien précis. Il veut aller de l'autre côté du lac, sur l'autre rive. Et dans les 3 évangiles, ce texte qu'on vient de lire est suivi de la guérison du démoniaque qui avait toute une légion en lui. Ces deux textes sont tout le temps dans les trois évangiles synoptiques, sont attachés l'un avec l'autre. Jésus, il sait qu'il doit aller là-bas parce qu'il va rencontrer cet homme, il va le délivrer et il va repartir. Il a un but bien précis. Et donc, il monte dans le bateau. Et les disciples le suivent. Allons de l'autre côté. Allez, venez. Alors, dans le bateau, ben, il y a ces quelques disciples qui le suivent. Alors, certainement, il y a Pierre, André, Jacques et Jean, des marins chevronnés, des pêcheurs, qui étaient disciples de Jean le Baptiste. Et quand Jean a dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde », ben, ils l'ont suivi. Il y a d'autres disciples, peut-être moins expérimentés. Ils ont compris l'enseignement de Jésus, qu'il fallait tout laisser pour le suivre. Et là, ils vont s'engager dans une expérience extraordinaire. Je mets comme titre à ce message « En pleine tempête ». Parce que c'est souvent quand on est dans la tempête qu'on se pose des questions, et parfois même des questions existentielles. Nous verrons dans un premier temps quelques notions de tempête. Puis on verra les diverses réactions possibles au sein de la tempête. Et enfin, on réfléchira sur quelles solutions dans la tempête. Quelques notions de tempête. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Pendant qu'il naviguait, il s'endormit. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Le bateau se remplissait. Ils étaient en danger. Nous voyons ici que, pour les disciples, cette tempête est vraiment une question de vie ou de mort. Ils sont en train de sombrer. Et même si certains hommes sont aguerris à la navigation, ils connaissent bien ces phénomènes et ils savent qu'il peut y avoir de telles tempêtes. Et là, ils sont en panique. Alors, le lac de Galilée est appelé aussi mer de Galilée. Bon, c'était quand même de l'eau douce, mais ils appelaient ça aussi mer de Galilée. J'ai regardé, ça avait à peu près 164 km² de superficie. Bon, comme ça, ça ne dit pas grand-chose. Alors, c'est à peu près 3-4 fois le lac du Bourget. Vous voyez le lac du Bourget, ça faisait 22 km sur 12. Ça ne vous dit pas grand-chose encore. Bon, c'est plus grand que Paris. Ah, là, ça parle. Voilà. Le lac de Galilée est plus grand que la superficie de Paris. Petite couronne, grande couronne, bon, de Paris d'une manière générale. Et puis, le relief qui est tout autour du lac, eh ben, faisait qu'effectivement, il pouvait y avoir des vents tourbillonnants dans ce lac qui rendaient la navigation très, très difficile. Il nous est dit que l'eau commençait à remplir le bateau. Il ne faut pas s'imaginer des vagues de 3 ou 4 mètres de haut. Non, ce n'était pas besoin. Mais des vagues qui étaient assez grandes pour remplir et assez successives dans leur roulement pour remplir le bateau. Petit à petit, le bateau se remplissait et s'enfonçait. Et avec ce genre de tempête, il n'y avait pas vigilance Météo France. Il n'y avait pas alerte tempête pour nous prévenir et nous mettre en sécurité. Elles arrivaient très, très soudainement. Alors, comme je le disais, les disciples, là, ils sont dans une question de vie ou de mort. Et il est difficile pour nous, dans nos vies, de nous comparer à ce qu'ils étaient en train de vivre, eux. Pour autant, on a tendance, en tant qu'être humain, à toujours comparer. Et donc, ils étaient en galère. Mais si on compare cette tempête sur un lac, ben, ça peut être rien par rapport à une tempête en pleine mer, où effectivement, on peut avoir des vagues de 4, 5, 10, 15, 20 mètres de haut, et peut-être même bien plus. Et si on compare des tempêtes en pleine mer, où on a déjà eu entendu dans l'actualité, où des pêcheurs ont sombré, ben, c'est rien comparé à un tsunami. Et on peut toujours comparer à quelque chose qui est plus grave et de dire, finalement, c'est pas si grave que ça. Il y a toujours plus grave. Mais pour celui qui vit sa tempête, eh bien, quelle que soit son intensité, ça paraît toujours plus dur et sans issue. Parce que c'est ce que tu es en train de vivre. Parfois, la tempête est le résultat de ce qu'on appelle la loi des séries, accumulation de faits, la maladie, perte du travail ou difficulté au travail, relations conjugales, relations familiales. Ça peut être des fois aussi les difficultés économiques, hein. Une succession de pannes, le véhicule, l'électroménager, le mobilier, peut-être même l'immobilier. Et cette accumulation peut arriver, pour certains, même à une question de vie ou de mort. Vous savez pour la plupart que mon frère est décédé il y a quelque temps, quelques semaines. En fait, il s'est suicidé. J'ai eu l'occasion de parler avec peu de monde, mais quelques-uns parmi vous savent que nous avons eu une enfance assez difficile. Et mon frangin n'a jamais réussi à se reconstruire par rapport à cela. Et justement, l'accumulation de faits qui arrivent ont fait que sa tempête à lui était trop grande. Peut-être un jour, dans vos vies, vous avez eu des tempêtes et vous aussi, vous avez eu des idées noires, comme on dit. J'en ai eu aussi. Jésus monte dans la barque et les disciples le suivent. Vouloir suivre Jésus n'est pas de tout repos. Cela a un coût. Suivre Jésus ne nous garantit pas une mer calme et une traversée paisible. Suivre Jésus nous garantit même au contraire des tempêtes, et Jésus nous le dit. Tout d'abord parce que le monde va nous rejeter, parce que le monde ne connaît pas Christ et le monde ne va pas partager nos valeurs. Aussi l'ennemi qui va nous mettre, comme on dit, des bâtons dans les roues, qui veut nous faire chuter, qui veut qu'on se détourne de Christ. Et puis, il y a aussi les conséquences universelles du péché sur notre monde. Nous passons et nous passerons tous par des tempêtes. Jésus monte dans la barque et il s'endort sur un coussin à l'arrière du bateau. Ne savait-il pas ce qui allait se passer ? C'est lui qui est monté dans la barque. C'est lui qui a voulu aller de l'autre côté. Il monte dans la barque et les disciples le suivent. Alors, quelle réaction face à cette tempête ? Les disciples sont terrorisés. Seigneur, sauve-nous ! Nous périssons et tu ne t'en soucies pas ! Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Où est votre foi ? Les disciples pensent qu'ils vont mourir. Et Jésus leur demande, pourquoi avez-vous peur ? A-t-on le droit d'avoir peur ? Peur dans le danger ? Peur dans des situations qui nous dépassent, qui nous submergent ? Alors la peur déclenche un réflexe de survie. Dans un premier temps, elle peut nous paralyser et nous empêche de faire quoi que ce soit. Comme si le fait de ne pas bouger, le danger va passer à côté de nous sans nous voir. Alors, c'est un question de cerveau, du néocortex et du cerveau reptilien. Et à un moment donné, c'est le cerveau reptilien qui prend la relève. C'est-à-dire que lui, il ne réfléchit pas. C'est survie, survie. Et donc, la peur fait que des fois, on s'enfuit à toutes jambes. On essaye de trouver une solution, quelle qu'elle soit. Et si parfois, on est vraiment trop acculé, on va devoir affronter la chose. On dit que la peur est mauvaise conseillère. C'est vrai qu'il est difficile de bien réfléchir quand on a peur. Mais la peur est inhérente à notre nature. Souvent, des gens qu'on trouve très courageux disent que ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur, mais de surmonter sa peur qui fait qu'on est courageux. La peur est la deuxième conséquence visible du péché originel. Quand Adam et Ève désobéissent à Dieu, première chose, ils se rendent compte qu'ils sont nus, avec tout ce que cela veut dire. Deuxième chose, ils se cachent. Mais pourquoi ils se cachent ? Genèse 3, verset 10, Dieu arrive et appelle Adam. Adam répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. » Première fois que la peur apparaît dans le monde. Il a eu peur. Peur de Dieu. Peur de réaliser ce qu'il était, mais aussi peur des conséquences de ce qu'il avait fait, certainement. Et il s'était caché. Comme si on pouvait se cacher à Dieu. Dans les trois évangiles, Jésus questionne les disciples sur la raison de leur peur et sur la grandeur de leur foi. J'ai pas tout mis les textes, mais dans un des évangiles, c'est « Votre foi est si petite ». Le problème de la foi des disciples revient, vous le savez, tout au long des évangiles. Souvent, on va leur dire « Mais quelle est votre foi ? Où est votre foi ? Mais vous ne croyez pas, vous ne comprenez pas. » Et souvent, il va les reprendre à ce sujet-là. Et moi, je me sens tellement ressemblant à ces disciples. Et je leur trouve tout plein d'excuses. Ah, Seigneur, franchement, ils sont au début du ministère, là. Ils n'ont rien vu encore. Ben oui, tu viens faire des miracles, mais quand même, là, ils vont mourir. Et toi, tu leur dis, mais oh, elle est où votre foi ? C'est pas évident, hein ? Et en même temps, s'ils vont réveiller Jésus et qu'il lui dit « Sauve-nous », c'est qu'ils espèrent quand même qu'il va faire quelque chose. Donc, ils ont quand même foi que quelque chose va se passer. Seigneur, t'es un peu gonflé, là. Oh, les gars, ils rament, là. Et toi, tu leur dis « Où est votre foi ?» Peut-être que ce questionnement, finalement, de Jésus n'est pas tant sur le fait ce qu'il va faire ou pas un miracle, mais sur le fait qu'ils lui disent « Mais tu t'en soucies pas ?» Alors, tu t'en soucies pas de quoi ? Qu'ils vont mourir, eux ? Qu'ils vont tous mourir avec lui ? Si dans un premier temps, la peur est là pour nous alerter du danger, la panique qu'elle peut produire peut nous faire faire n'importe quoi, comme faire des reproches à Dieu. Je dirais, peut-on en tant que chrétien avoir peur ? Oui. En tant que chrétien, je peux avoir peur. Est-ce que je dois me laisser submerger et guider par elle ? Non. À maintes reprises, Jésus dira, « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous allez avoir des tribulations. » N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, je suis là. Face à l'adversité, il y a, semble-t-il, trois réactions possibles. La résignation, le redoublement d'efforts ou la recherche d'aide. Alors pour les plus anciens dans l'Église, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la journée d'église qu'on avait eue ici, j'avais fait un jeu. Je vous avais fait faire un jeu. C'est un labyrinthe avec des cordes. Donc, j'avais tendu tout plein de cordes. Et puis, on avait les yeux bandés, enfin, sauf moi qui étais l'animateur du jeu. Et puis, toutes les personnes se tenaient aux cordes. Je les avais réparties dans le labyrinthe, comme ça. Et puis, elles devaient trouver la sortie du labyrinthe, tout en tenant la corde. Et pour ceux qui s'en rappellent, Il y avait diverses réactions. Alors, il y en a qui essayent de chercher, puis au bout d'un moment, ils ne trouvent pas, ils en ont marre, puis ils restent là, statiques. Très peu. Il y en a d'autres que, il y avait une seule consigne, c'est que si vous avez besoin d'aide, levez la main. Si tu as besoin d'aide, Florent, lève la main. Et donc, si tu avais besoin d'aide, tu levais la main, et puis moi, je venais, et je répondais à toutes tes questions et à tous tes besoins. Formidable. Dans le jeu, bien sûr. Et donc, on voyait ceux qui levaient la main et ceux qui persévéraient, qui voulaient y arriver jusqu'au bout. Et notre ancien pasteur et implanteur Paul Davis était de ce cas-là. Il y avait aussi Romain Mourier, pour ceux qui s'en rappellent. Alors lui, il a voulu tenir jusqu'au bout, par lui-même, y arriver, à sortir de ce labyrinthe. Alors, il y avait une petite astuce, mais je ne vous la dirai pas. Un jour, si on refait ce jeu-là, vous comprendrez. Et c'était marrant de voir effectivement les trois attitudes qu'on pouvait avoir. Je pense que face à l'épreuve, comme les disciples, on va essayer de s'en sortir par nos propres moyens, encore et encore. C'était des professionnels de la navigation, hein. Ils connaissaient la mer. Ils voulaient y arriver. Peut-être d'autres disciples qui étaient là, qui ne connaissaient rien à la mer, ont très vite paniqué et ils sont restés un peu bloqués. Et puis, ils se sont dit, si on allait voir Jésus, peut-être qu'il aura une solution. Mais quelle que soit leur réaction, j'ai l'impression, en tout cas moi, qu'ils se sont dit, mais il fait quoi là, Jésus ? C'était pas un bateau de 40 mètres, c'était une barque de pêcheurs. Et Jésus, il dort à l'arrière sur un coussin. Il a dû quand même se recevoir quelques vagues d'eau puisque le bateau se remplissait. Et eux, ils bataillent, et ça gronde, et ça souffle, et ils doivent donner des ordres dans tous les sens. « Allez, borde-moi ça !» tout. Ah. Et Jésus, il dort. Mais il fait quoi ? Ils sont obligés de s'approcher pour le réveiller. Combien de fois je me suis dit « Pourquoi Dieu ne répond pas ? Pourquoi il me laisse dans cette galère ? Pourquoi il permet que j'ai telle ou telle épreuve ?» Ce qui nous fait arriver à notre troisième point, la solution dans la tempête. Donc les disciples s'étant approchés, ils le réveillèrent, ils ont dû le secouer, dire « Seigneur, mais sauve-nous, nous périssons, tu ne t'en soucies pas. Pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi ? Où est votre foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et il eut un grand calme. Dans la tempête, la solution, c'est qu'elle s'arrête. C'est ce qu'on veut toujours. Quand on est dans la tempête, on veut que Dieu arrête cela, qu'il résolve notre problème. Et là, c'est clair, hein ? Le grand calme. Et quand on est dans la tempête, on aurait tendance, ou quand on a quelqu'un qui est dans la tempête, on aurait tendance à lui dire « T'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Tiens bon, accroche-toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est lui qui dirige les choses et puis il va les utiliser pour ton bien, pour te faire grandir. Le Seigneur est mon berger, il me conduira vers des eaux paisibles. » Et c'est vrai. Tout ça est vrai. Mais quand on est dans la tempête, comment s'accrocher à de telles phrases ? Elles peuvent nous sembler vides. Alors, quelle est la solution ? Pour moi, dans ce texte, la solution, c'est de crier. Oui, crier. Crier pour surpasser le bruit des vagues. Crier plus fort que le vent. Crier pour réveiller le Seigneur. Nous le savons, Dieu ne dort ni ne tarde, hein. Mais ô combien il est bon de crier à lui. À un moment donné, les disciples ont dit « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie. » Crier au Seigneur, ce n'est pas et ne doit pas être l'ultime recours, mais plutôt le seul et unique recours. Osons crier à Dieu. Même si parfois, comme Job, nous crions sur Dieu, et Dieu va nous reprendre après. Mais ce n'est pas grave. Il reprend Job, mais il dira aux amis, « Qui a parlé comme mon serviteur, Job ?» Hein ? Là, le Seigneur, il va reprendre les disciples. Où est votre foi ? Mais il va les secourir. Osons crier à Dieu, même si parfois, eh bien, on peut dire des choses peut-être qu'il ne faudrait pas dire. N'hésitons pas à crier, alors que tout nous montre que nous sommes inaudibles. N'hésitons pas à crier, alors que parfois nous nous sentons si non méritants. N'hésitons pas à crier, alors que Dieu nous semble si lointain. N'ayons pas peur. Car on ne peut vraiment connaître ce que Christ peut faire qu'en vivant des tempêtes avec lui. On ne peut vraiment connaître ce que Christ peut faire en vivant des tempêtes avec lui. Est-ce que vous connaissez l'histoire du cap de Bonne Espérance ? Non ? Est-ce que vous savez où est le cap de Bonne Espérance ? Oui ? Charlotte ? Au sud de l'Afrique. Voilà. Et le cap de Bonne Espérance s'appelait avant cap des tempêtes. Parce qu'effectivement, c'est un cap très difficile à passer parce qu'il y a énormément de tempêtes. Et les Portugais, une fois qu'ils ont réussi à passer ce cap, ils ont réalisé que cela leur ouvrait le chemin aux Indes. Et du coup, ils ont rebaptisé ce cap, cap des tempêtes, en cap de bonne espérance. C'était un cap difficile, mais qui donnait de l'espoir. On ne peut vraiment connaître ce que Christ peut faire qu'en vivant des tempêtes avec lui. Avant même que la tempête soit apaisée, la vraie solution, c'est de connaître et reconnaître qui est Christ. Quel est celui-ci ? Après la tempête, voilà la question que se sont posées les disciples. Quel est celui-ci ? Ces hommes furent saisis d'étonnement et d'une grande crainte. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ? Après l'étude de ce passage, je me demande si Jésus leur reproche plus leur manque de foi dans ce qu'il peut faire que leur manque de foi dans qui il est. Les verbes ici d'étonnement et de grande crainte ont différents sens en grec. Mais ils ont les deux ce sens commun de vénérer avec distance. C'est-à-dire que on reconnaît que l'autre est au-dessus de nous. Et on a cette profonde crainte, ce profond respect par rapport à celui qui est plus grand que nous. Ils commencent à comprendre que Jésus est bien plus qu'un simple homme. Et ils sont qu'au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Tout au long de l'évangile, ils vont découvrir et apprendre qui est Jésus. Même à la fin, Jean 14, Jésus va dire « Cela fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. » Qui est celui-ci ? En conclusion, ce matin, je n'aurai pas de paroles réconfortantes ni de rassurance. Parfois, il y a des tempêtes et malheureusement, la solution ne vient pas. Pour autant, toutes les tempêtes finissent. Parfois, c'est vrai, avec des conséquences qui dureront peut-être toute notre vie. Mais n'oublions pas qui est celui qui est avec nous. N'hésitons pas à crier. Crier vers lui. Crier plus fort que le vent, plus fort que le tumulte qui est autour de nous et qui nous écrase. Et persévérons dans notre confiance et notre marche. Notre confiance en lui et notre marche avec lui. Parce qu'à la fin, que reste-t-il ? Christ debout sur le bateau. Que le Seigneur nous fasse grâce qu'au sein de nos tempêtes, nous puissions le voir, lui et lui seul. Qu'il nous fasse cette grâce de nous accrocher à qui il est. Et Seigneur, il peut bien avoir des pourquoi dans nos vies, dans ma vie, des incompréhensions. Des fois, des engagements que je peux prendre et après me dire, mais pourquoi ? Pourquoi tu permets ceci ou cela, Seigneur ? Des fois, on n'a pas toujours la réponse. Pourquoi cette tempête ? Pourquoi tu as permis que les disciples vivent cette tempête ? À quoi cela leur a servi, Seigneur ? En tout cas, ils ont vu qui tu étais. Seigneur, effectivement, que tu puisses faire le calme en nous, au sein même de la tempête, avant que la tempête se finisse, Seigneur, que nous puissions avoir les yeux tournés vers toi, que nous puissions nous confier en toi, que nous puissions rester accrochés à toi, Seigneur, parce que tu es celui qui est et qui revient. Tu es celui qui a vaincu la mort et qui nous donne de l'espérance, une bonne espérance. Tu es celui qui nous dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu es celui qui ne nous laisse jamais seuls, même quand on ne t'entend pas, même quand on ne te voit pas, même quand on a l'impression que tu dors. Tu es là et tu ne nous laisses pas. Tu es celui qui reste debout. Tu es celui vers qui on peut venir, Seigneur. Oui, que tu nous renouvelle, que tu puisses nous fortifier au sein de nos tempêtes, Seigneur. Que tu puisses nous enlever nos peurs, que tu puisses nous enlever nos inquiétudes et notre affolement, Seigneur. Et que nous puissions rester accrochés à toi. Merci. Merci, Seigneur. Amen.